vous invite à trouver l'évangile de Jean chapitre 14. Nous revenons à ce moment sacré de la nuit avant la mort de notre Sauveur dans la chambre haute. Et nous lisons ce matin dans les versets 25 jusqu'à la fin du chapitre. Nous entendons les paroles du Seigneur lui-même. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Il se réfère à tout ce qu'il vient de dire ce soir-là. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous, si vous m'aimiez. Vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Et ils s'en vont vers le jardin de Gethsémané. Ce n'est pas fini, cette soirée d'enseignement. Nous avons encore le chapitre 15 et 16 et la prière de Jean 17. Et c'est sans doute en route. Jésus parle d'être le vrai cep, peut-être en passant à côté d'un cep. Nous n'en savons rien. Et il a encore d'autres choses à dire. Mais le temps est très court maintenant. Les moments sont littéralement comptés. Ils sont maintenant en chemin, Jésus en tête, vers le jardin de Gethsémané. Mais avant de partir, il a juste une dernière parole à dire au sujet de trois choses qui sont vraiment cruciales pour nous dans notre vie chrétienne, dans son absence physique et jusqu'à ce qu'il revienne. C'est au sujet, et c'est une leçon au sujet de la vérité, au sujet de la paix et au sujet de l'amour. Pourquoi important? Parce que si vous pensez à vous-même en tant que chrétien, comment est-ce que votre pensée est nourrie et dirigée par la vérité? Celui qui pense le mensonge et croit le mensonge, il est dans la misère. Comment est-ce que votre conscience et vos émotions sont nourries et fortifiées? Par la paix. La paix apaise et stabilise l'homme dans cette partie de son fort intérieur. Et comment est-ce que votre cœur, vos affections sont purifiées et fortifiées et nourries? C'est l'amour, n'est-ce pas? Donc la vérité pour ma pensée, la paix pour ma conscience et mes émotions, l'amour pour mes affections, c'est essentiel. C'est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, n'est-ce pas? Et Jésus va nous dire des choses absolument formidables en nous donnant sa paix, en envoyant l'Esprit lui-même pour nous enseigner toute la vérité et en nous montrant et en nous dirigeant vers son amour. Donc nous voulons d'abord voir une leçon sur la vérité. Nous lisons les versets 25 à 26. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, dit-il ce soir-là. Mais le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il y a deux tout, deux pentas ici. Il vous enseignera, il vous mènera dans toute la vérité, littéralement, et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Le Consolateur. Alors, question. Si on demandait à un chrétien évangélique typique aujourd'hui, dis-moi en un seul mot la raison principale pour laquelle Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Quel serait le mot que le chrétien typique vous dirait? Je pense qu'il dirait le mot puissance. Mais Jésus a quelque chose de très différent à dire au sujet de la raison principale pour laquelle il donne le Saint-Esprit. Si nous regardons dans le verset 26, nous lisons que le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, moi, je dirais la raison principale en un mot, vérité. Revenez avec moi quelques versets au début du chapitre et lisez avec moi le verset 16 et 17. La première fois que Jésus mentionne le Saint-Esprit, son envoi du Saint-Esprit, il dit ceci au verset 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et puis, si nous allons plus loin dans le chapitre 15 et le verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient de Père, il rendra témoignage, il vous dira la vérité à mon sujet. Et enfin, le chapitre 16 et le verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Est-ce que vous réalisez que je viens de vous donner tous les versets dans cette dernière soirée où Jésus parle du Saint-Esprit, sauf un passage, et ce passage qui est un peu plus long, dit que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Encore, il nous dit la vérité sur le péché. C'est vraiment très frappant. Alors, en tant qu'esprit de vérité, qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie par le Saint-Esprit? Et dans la vie des premiers apôtres, ces 11 hommes qui étaient avec lui, parce qu'il y a certaines choses qui sont juste pour eux dans tout cela. Il y a des choses qui sont pour toute l'Église. Trois choses. Premièrement, puisque les apôtres, ce soir-là, ne se souvenaient pas du tout de tout ce que Jésus leur avait déjà dit pendant 3 ans, et il nous fallait tout cela. Il nous fallait les évangiles. Il nous fallait exactement ce que Jésus a dit, pas à peu près. Jésus promet que l'Esprit Saint, quand il viendra, il va leur donner un don, il va faire une œuvre divine spéciale dans leur vie, les 11, pas nous, mais eux, de souvenance. C'est-à-dire, il va le rendre capable de se rappeler exactement de tout ce qu'il a dit. Regardez avec moi le verset que nous avons lu tout à l'heure. Donc, c'est le verset 26. Mais quand le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Ça, c'est pas une promesse à moi parce que Jésus m'a rien dit. J'étais pas là. Mais pour ceux qui étaient là et qui ont entendu la première fois, Jésus leur dit, tout ce que vous m'avez entendu dire et vous avez beaucoup oublié, le Saint-Esprit va faire une œuvre miraculeuse quand il va vous rendre capable d'enseigner l'Église du premier siècle et d'écrire les évangiles. Et nous avons ce don, chers amis, d'un évangile. Nos évangiles ne dépendent pas de la mémoire humaine. C'est absolument miraculeux. Ce n'est pas la mémoire humaine qui peut expliquer les évangiles. Comment est-ce qu'il rappelle de chaque mot, de chaque geste? Comment est-ce qu'ils... Ils n'ont pas tout dit, mais comment est-ce qu'ils savaient ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait laisser de côté? Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Deuxième chose, c'est que comme les paroles du Seigneur sont profondes et inépuisables, il promet que le Saint-Esprit va faire non pas simplement une œuvre de rappel pour les premiers apôtres, mais il va faire une œuvre d'illumination. Et littéralement, il dit, quand le Consolateur sera venu, il vous mènera dans toute la vérité. Il vous enseignera toute la vérité dans notre traduction, mais il va vous mener dans toute la vérité. Tout ce que j'ai dit, que vous n'avez pas commencé à sonder les profondeurs, il va vous mener dans tout cela. Je vous donne juste un petit exemple. Si nous regardons en Jean 12, ce n'est pas difficile de tourner une ou deux pages en arrière. Dans le chapitre 12, nous pouvons lire les versets 14 et 16. Alors, regardez. C'est un événement bien connu. Jésus entre en Jérusalem et nous lisons, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit, prophétie de l'Ancien Testament, sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, et on verra le Saint-Esprit, alors il se souvient que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. Les choses qu'ils avaient vues, ils avaient entendues, quand le Saint-Esprit vient, ils commencent à comprendre plus en profondeur. Mais ce n'est pas seulement pour eux. Pour vous, le Saint-Esprit est envoyé pour que de plus en plus, vous pouvez entrer dans les profondeurs du sens de la parole de la parole de Christ. Si vous êtes chrétien depuis 20 ans, vous savez que chaque fois que vous lisez la parole, chaque fois que vous venez à l'église, souvent il y a une œuvre du Saint-Esprit qui vous montre une profondeur de quelque chose que vous avez lu 50 fois, que vous avez entendu très souvent. Et le Saint-Esprit vous mène plus loin dans cette vérité. Et il est là constamment à l'œuvre dans votre vie pour faire cela. La troisième chose, c'est que il y a des points que Jésus ne pouvait pas enseigner les disciples avant sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire étant physiquement là avec eux. Il le dit lui-même dans le chapitre 16, les versets 12 et 13, regardez. 12 et 13, Jésus dit, 16, 12 et 13, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, il y a des choses qui n'auraient pas eu de sens pour eux tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Il y a des choses que sans le Saint-Esprit, c'était pas la peine de leur dire, parce que sans le Saint-Esprit, ils n'avaient pas les ressources spirituelles pour mesurer ça, pour comprendre, pour piger, pour saisir. Et donc, avec cette œuvre de rappel et cette œuvre d'illumination, Jésus promet ici une œuvre de révélation. Il va révéler de nouvelles vérités que nous retrouvons dans les Épîtres. Donc, quand nous lisons Paul, il dit beaucoup de choses que Jésus n'a jamais dit. Mais Jésus a dit qu'il allait dire des choses qu'il n'avait pas dit. N'est-ce pas? Il a promis ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'est pas moi qui vais vous les dire. Le Saint-Esprit aura aussi son miracle à faire. Et il sera glorifié par la manière profonde et incroyable qui va prendre un homme qui n'est même pas un des 11 qui ont cheminé avec Jésus. On va lui donner certaines des vérités les plus profondes et bouleversantes jamais données aux hommes. Et ainsi, on glorifiera la troisième personne de la Trinité. Gloire au Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ce ministère de l'Esprit de vérité, parce que nous sommes en train, et je finis là, ce premier point, c'est une leçon au sujet de la vérité et de l'Esprit de Dieu, sa fonction principale dans ta vie, c'est de te conduire à croire ce qui est vrai, à savoir ce qui est vrai, et à le croire, et à le vivre. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour vous? Parce que comment est-ce que vous changez en tant que chrétien? Et il y a beaucoup d'idées dans les églises chrétiennes, comment on change. Mais la Bible enseigne que nous ne changeons pas par une sorte de foudre spirituelle qui nous frappe un jour et bouffe. Ou bien par un exorcisme rapide qui, boum, mon problème est parti. La Bible enseigne, par exemple, dans Romains chapitre 12, je vous lis juste le verset, ne tournez pas, écoutez ceci. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par... Et nous disons, comment est-ce qu'on est transformé? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qui rend nouveau ton intelligence? Tu penses différemment, c'est la vérité. Tu changes quand tu penses et quand tu crois de manière différente. Tous les péchés que tu commets, tout, la personne qui est pleine d'amertume, la personne qui est pleine d'égoïsme, la personne qui prend des très mauvaises décisions, pas du tout prévoyante, c'est parce que ces personnes croient, pensent, vivent dans les mensonges. Je vous donne un exemple. La personne qui prend des décisions vraiment pas intelligentes et sages, parfois c'est parce que ces personnes ne croient pas une vérité extrêmement fondamentale de l'existence humaine, c'est que cette vie est incroyablement provisoire. Les gens vivent comme si cette vie est tout, n'est-ce pas? Et plein de leurs décisions découlent de ce seul mensonge. La manière de dépenser de l'argent, la manière d'établir les priorités, tout découle d'un grand mensonge qu'ils pensent et qu'ils croient et ils vivent à partir de ce mensonge. C'est que cette vie est tout. Vous voyez combien? Quand on commence à penser et à croire que cette vie est comme... C'est un clin d'œil. La Bible dit que c'est une vapeur. Nous sommes devant une éternité sans fin. Et ici, c'est une petite vapeur. Ça transforme. Ça transforme ce que je vais faire, ce que je vais chercher. Je vais chercher le Dieu éternel. Et je vais le chercher bien fort. Vous voyez? Il est essentiel pour vous d'être enseigné dans la vérité par le Saint-Esprit qui emploie les dons de l'Église. Personne n'est changé en dehors de la vérité. Si vous êtes nonchalant, vous devant moi, si vous, chers amis, si vous êtes nonchalant dans cette affaire de comprendre la vérité dans ses profondeurs, vous envoyez un message à Dieu. Pour moi, la vérité, ta vérité, est secondaire. Nous ne voulons pas faire ça. Personne ici. Je vous exhorte, si vous voulez coopérer avec le Saint-Esprit, qui vous est envoyé comme un consolateur, vous ne voulez pas être misérable, vous voulez être consolé, coopère avec lui. Ça veut dire, je suis assidu dans les moyens de grâce que Dieu me donne pour apprendre la vérité. Quand l'Église ouvre la porte pour que l'enseignement de la vérité soit donné, je suis là si je ne saigne pas. si je n'ai pas une fracture de jambe toute fraîche. Les moyens de grâce privés, la prière personnelle, la méditation de la Bible. Je suis sérieux. Je veux être transformé pour mon Dieu. Je suis transformé par la vérité, l'esprit de vérité, je coopère avec toi. Premier point fini. Deuxième point. Il y a une leçon au sujet de la paix. Verset 27. Dans ce verset, nous lisons que Jésus dit, ce soir-là, « Je vous laisse la paix. » Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Si vous allez vivre une vie stable et heureuse dans ce monde, il vous faut la paix dans la conscience et dans les émotions. Combien une personne qui n'est pas paisible ne peut pas s'orienter bien, se focaliser bien, croire bien ou faire bien, n'est-ce pas? Et Jésus dit d'abord qu'il donne la paix à certaines sortes de personnes. Il parle à des chrétiens sauvés et réconciliés. Je vous donne la paix. À des gens qui marche vraiment avec lui. Mais il est en train de dire, je vous donne la paix, je laisse ma paix avec vous, à des gens qui sont sur le point de passer par les scènes les plus turbulentes et périlleuses et violentes et dangereuses que vous pouvez jamais imaginer. Sur les 11 qui sont là ce soir-là, l'histoire chrétienne nous dit que 10 ont été exécutés, assassinés. Le seul qui en a échappé, selon ce que nous savons, on a essayé de le tuer en le mettant dans l'huile chaude. Et d'une manière probablement miraculeuse, il a survécu et le vieux Jean est exilé sur l'île de Patmos. Ils vont traverser les scènes les plus terribles. Et c'est à eux que Jésus dit, je vous donne la paix, je laisse ma paix. Je vous dis ça parce que nous avons tous la paix. N'importe qui dans cette ville a la paix quand tout va bien. La paix chrétienne est spéciale en ce que la paix chrétienne, c'est une paix que tu as quand tu es dans la tribulation. Nous avons la paix quand nous avons le trouble. Si je peux juste vous demander de regarder 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 16. Paul nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Est-ce que je suis en train de lire le... Oui. Alors peut-être que je voulais dire un question ici. Attendez. Comment? À 3,16, 3,16, ah oui, merci. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. J'ai entendu il y a quelques années un auteur chrétien raconter qu'il venait de perdre, c'était un homme d'affaires, mais un homme qui est devenu auteur et conseiller chrétien, il venait de perdre 300 000 dollars en un jour. Et il dit, quand il a eu la nouvelle, il a dit, j'ai dit merci Seigneur. Il était en train d'expliquer qu'on peut avoir la paix n'importe quand. Mais cet homme, il avait une forte conscience et conviction que tout ce qui lui arrivait, sur tout cela, Dieu était parfaitement souverain, bon et sage. Jésus a dit ceci en Jean 16, la même soirée, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Est-ce que vous avez vu le parallélisme? Dans le monde, vous aurez des tribulations afin que vous ayez la paix en moi. En moi, en le monde. Au même moment, dans le monde, j'ai de la tribulation, mais en Christ, en union avec Christ, j'ai la paix. Et je voudrais vous montrer comment ça marche, mais il faut qu'on regarde le verset encore. Revenez à Jean 14 si vous voulez. Qu'est-ce que Jésus nous informe au sujet de cette paix? Il dit d'abord que c'est un héritage ou une legs permanente de sa part. Regarde la manière dont il dit « Je vous laisse la paix ». Il parle de le verbe signifie de léguer, de donner quelque chose de manière permanente, c'est fini, c'est ton héritage, c'est à toi, je laisse ça en partant, en mourant en partant, je vous laisse ça. Qu'est-ce que vous allez me laisser, papa? Et notre sauveur dit, je vous lègue la paix, ma paix à moi. Et Jésus explique que c'est sa paix, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous laisse sa paix? Quand nous regardons la vie de Jésus sur terre, nous sommes émerveillés par beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais moi, je suis toujours émerveillé de voir comment il est toujours complètement tranquille. Toujours. Même ce soir-là. Il parle, il enseigne tranquillement. Et il sait que dans quelques heures, il sera sur une croix romaine. Et nous pouvons nous demander comment. La raison pour laquelle le Seigneur a cette paix, c'est qu'il sait qu'il est complètement en règle avec le Dieu de l'univers qui gouverne tout. Il est tellement dans la faveur du Père que, écoutez bien, lorsqu'il est sur le point d'être arrêté, un moment d'alarme et de trouble, et quelqu'un essaie de le sauver, un de ses disciples, il dit, est-ce que vous ne savez pas que je peux demander à mon Père et il enverrait une légion d'anges, des milliers d'anges, boum! Vous voyez pourquoi il est dans la paix? Il a dit deux choses là. J'ai tellement la faveur de mon Père, tout ce que j'ai à faire, c'est demander. Et deuxièmement, le Père est tellement puissant et souverain que dans un clin d'œil, il peut arrêter ça. Je ne suis pas arrêté, si c'est sa volonté. Est-ce que vous ne savez pas? Non, personne ne sait. Mais parce qu'il connaît sa relation avec le Père qui gère tout, il est tranquille. Alors, mais je veux demander à quelqu'un qui n'est pas le Seigneur. Alors, je vais aller auprès d'Étienne. Étienne, le premier martyr chrétien. Vous vous rappelez? On va dans le livre des Actes, je crois que c'est le chapitre 7. Merci, Callaghan. J'allais dire 8, mais j'allais vous égarer. Donc, Étienne, les gens se précipitent vers lui pour le lapider et le tuer. Et sous le coup des pierres, qu'est-ce que Étienne rencontre? Il lève les yeux et il a une vision, et c'est le Christ lui-même qui se lève. Le Christ qui s'est assis pour toujours à la droite du Père, mais qui se lève parce que son Fils, qui a toute sa faveur, va être martyrisé. Et il se manifeste, il se montre à Étienne pour qu'il puisse traverser le moment le plus périlleux possible, pas seul. En sachant, tu as ma faveur, je suis avec toi. Sois dans la paix en mourant. Je veux appeler à la barre un deuxième témoin, ou trois témoins de plus. C'est les trois amis de Daniel. On les jette dans une fournaise ardente. Je ne sais pas si vous avez jamais eu ça. Quand on est dans une fournaise ardente, qu'est-ce qu'on rencontre? En tout cas, le roi dit, est-ce que je n'ai pas jeté trois hommes dans la fournaise ardente? Or, il y a un quatrième homme et il a l'apparence d'un fils de l'homme. Les trois amis de Daniel, dans le péril le plus grand, sont avec le Christ. Et ils sont couverts par sa faveur et sa protection. Étienne meurt, les trois amis de Daniel ne meurent pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce que nous savons, c'est que le Christ a dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Toute ma faveur. Ne savez-vous pas que je peux, moi, David, votre pasteur, ou vous, chrétien de cette église, demander au Père, et il enverra des anges nécessaires pour nous secourir, si c'est sa volonté de nous secourir. Soyons en paix, en sachant qui est Dieu et qui nous sommes pour lui. Je vais juste dire un mot en terminant pour vous aider. Vous vous dites, oui, mais j'aimerais bien réagir comme ça, mais mes réactions quand le trouble est là, ce n'est pas exactement comme ça. Comment est-ce que nous pouvons grandir dans cette paix qui nous est donnée par le Seigneur? Parce qu'il a dit, vous avez la même relation avec le Père que moi, vous pouvez maintenant avoir ma paix. Parce que vous avez la même relation avec Dieu que moi. Je crois qu'il y a certaines choses. La première chose, c'est en amont. Avant que le trouble arrive, il y a quelque chose que vous devez être en train de faire. 2 Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix, vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Plus nous connaissons Dieu et qui il est, plus les choses, les troubles de ce monde semblent petites à la lumière de sa grandeur et sa bonté immense. C'est lorsque notre Dieu est petit que nos problèmes semblent des problèmes paniquants. Deuxièmement, ça c'est en amont, mais maintenant là-dedans. Lorsque vous êtes là dans le trouble, ne réagissez pas émotionnellement. Ne pensez pas que tout doit aller comme vous le pensez ou comme vous le voulez. C'est pas vrai. Pour avoir la paix, il n'est pas nécessaire que tout aille comme je le veux. Troisièmement, ne courait pas comme un poulet qui a eu sa tête coupée. Vous avez vu? J'ai vu en Afrique des poulets qui continuent à courir partout lorsqu'on leur a coupé la tête. Ne courez pas partout paniqué en essayant de trouver une solution humaine. Ça, c'est la manière de multiplier l'alarme. La première chose, c'est Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, la supplication avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais si vous ne priez pas, si vous n'obéissez pas à ce que la parole dit, vous n'aurez pas cette expérience d'une paix qui vient garder comme des soldats à votre cœur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne permettez pas que vos pensées aillent partout. En imaginant le pire, n'est-ce pas, vous ne faites pas ça? Moi, je le fais parfois, n'est-ce pas? Mais nos pensées peuvent aller dans des sens incroyables. Mais écoutez le reste de ce passage en Philippiens. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris de moi, entendu, vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. D'accord? Si vous avez des problèmes émotionnels, c'est un problème de péché. Ce n'est pas un tempérament. Jésus nous commande ici. Il dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Cela déshonore Dieu qu'un chrétien soit paniqué, émotionnel, et sous le coup de l'inquiétude et de la panique. Je suis d'accord avec vous. Quand quelque chose nous arrive, il est normal qu'on ait des peurs, n'est-ce pas? Si quelque chose est effroyable. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que nous ne devons pas rester sous le coup et la domination de telles émotions. Jésus dit que votre cœur, siège de ces émotions, ne permette pas que ces choses vous dominent. C'est un devoir. Et si vous avez des problèmes émotionnels, vous avez une racine quelque part, une racine de péché à chercher et à dire, ça c'est la raison pour laquelle je suis émotionnel. Soit j'ai une volonté trop forte et je veux ce que je veux. Quand ça n'arrive pas, je suis paniqué, je suis alarmé, je suis inquiète. Il peut y avoir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous avons besoin de faire face si nous n'arrivons pas à vivre dans la paix. Parce que le Christ il vous a légué la paix. Il vous a donné sa paix. Et c'est vraiment formidable, cette paix. De pouvoir vivre les mauvaises choses parce que vous allez les vivre. Au travail, dans votre famille, avec votre conjoint et vos enfants, je vous assure, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, dit les Français, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je suis qu'un grand enfant, je suis un grand problème pour moi-même. Voilà. Mais, oui, donc, Dieu, l'intention de Dieu n'est pas que vous traversiez la vie de la même manière devant chaque tribulation, encore inquiète, encore alarmée, encore peureux. Sa volonté, c'est que avec le temps, vous appreniez mieux à réagir différemment et à avoir la paix et la confiance. Je voulais juste un verset de plus et puis on aborde le dernier point qui court. Au sujet de la paix, le dernier verset, Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses dispositions, c'est-à-dire sa pensée braquée sur moi, sa foi, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. J'ai honte parfois de mes réactions peureuses quand je me rappelle que l'Éternel est le rocher des siècles. Une leçon sur la vérité, une leçon sur la paix, une leçon sur l'amour. Alors là, je crois que nous allons recevoir une belle réprimande. 28. Jésus dit à ses disciples, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Regardez la phrase suivante. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Ce soir-là, quand les disciples entendent que Jésus part, et il part de manière imminente, ils sont complètement dévastés. Ils ne sont pas dans la joie. Ils sont dans le cœur troublé, dans l'alarme. Et Jésus est en train de nous enseigner qu'une bonne partie de nos peurs, de nos troubles de cœur, viennent d'un manque d'amour. Vous avez entendu? Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez plutôt. Même si c'est mon départ, même si ça vous coûte, si vous m'aimiez, il y aurait eu une joie pour moi d'aller auprès du Père. Mais puisque nous ne pensons qu'à nous-mêmes, les disciples ne regardent le départ de Jésus que par rapport à eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? N'est-ce pas? Notre égoïsme est le problème, la source de beaucoup de troubles de cœur. Lorsque je ne pense qu'à moi-même, et qu'est-ce que cet événement signifie pour moi-même? Je suis dans la misère, je suis peureux. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Un manque d'amour. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, qui est peureux, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, amour et bon sens. Amour parce que l'amour chasse la peur. Voilà cette dame qui est peureuse et un jour on la voit se précipiter dans le danger. Pourquoi? Parce que son bébé qu'elle aime, est en péril. Et l'amour chasse la peur. Elle oublie sa peur parce qu'elle pense à l'autre. Mais lorsque je ne pense qu'à moi, voilà, j'aurai toujours des problèmes avec la panique et la peur. Vous pouvez le comprendre si vous êtes étudiant et vous aimez, il y a un autre étudiant que vous aimez beaucoup, ou un autre collègue au travail que vous affectionnez beaucoup, et cette personne réussit ou reçoit une promotion, ben là, ça vous donne de la joie, même si le collègue va partir et vous le verrez plus autant. Ah, mais ça, c'est bien pour lui. Il va déménager vers sa famille, il voulait tellement faire ça. Ah, mais quel bonheur! Ah, il va me manquer. Et quel bonheur pour lui, n'est-ce pas? Mais c'est l'amour qui nous fait réagir comme ça, n'est-ce pas? Et maintenant, revenons à Jésus. Écoutez bien. Une bonne partie de la joie chrétienne, c'est pas une joie que nous avons par rapport à notre lot dans la vie, ce qui revient à nous. C'est une joie par rapport à son lot. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie que moi, je vais rejoindre le Père et la gloire que j'avais avec lui avant que le monde ne soit. Celui que j'aime le plus, quand je pense qu'il a été exalté, qu'il est dans une joie indicible dans la présence du Père, ça doit me réjouir, n'est-ce pas? Je dois être content pour mon Sauveur. Et puisque ça ne change jamais, son exaltation auprès du Seigneur, j'ai toujours quelque chose pour me réjouir. Sa situation, pas la mienne. C'est faux. C'est très fort, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Jésus dit. Nous allons être ressuscités un jour. Nous serons dans cette même joie. Mais nous aimons l'ordre des choses. Et l'ordre, c'est lui, comme les prémices d'abord, tout seul. Dans la joie du Père. Et ensuite nous. J'aime cela. Parce que j'aime sa grandeur. Il est tout seul. Il doit être tout seul dans la présence du Père. Le seul homme dans toute son humanité auprès du Père. Parce que c'est lui qui a gagné ça à la croix. Gloire à lui, qu'il soit tout seul dans cette gloire pendant des siècles. On y arrive, Seigneur, mais prends ton temps. Voilà. Voilà l'amour. Une leçon sur l'amour. Et ça finit comme ceci, lisons juste la dernière partie du passage. Maintenant, ayant parlé de l'amour, il va montrer l'amour. Donc, il dit ceci au verset 29. « Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Ah, il avertit. Notre conversation va être coupée à court, subitement. Sachez-le. Pourquoi? Parce que le prince du monde vient. Satan lui-même va me confronter. Mais il leur donne le résultat de cette confrontation. Il n'a rien en moi. Tranquillité. La paix du Seigneur. Vous pouvez dire ça? Satan n'a aucun point d'appui en vous. Il n'y a aucune faille, il n'y a aucun mauvais désir, mauvais penchant de votre cœur où Satan peut aller. Je vais la voir là. Jésus dit, en tant qu'homme, il n'a rien. Il est frustré. Il ne peut rien trouver dans ma personnalité, mes désirs, mes pensées, mes penchants. Rien en moi où il peut m'amener dans le péché. Et puis il dit, mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. C'est pas Satan qui me traîne dans le jardin, ce n'est pas ceci ou cela. Je vous ai parlé de l'amour, je vais vous montrer l'amour. Pour que le monde entier sache combien j'aime le Père, je vais tout droit, levons-nous, partons. Je vais tout droit dans la gueule du lion. Et nous voyons qu'il y a quand même un homme dans l'histoire humaine qui a aimé Dieu, mais vraiment comme il faut. Comme il faut. Et il a fait parce que nous ne l'avons pas fait. Il a fait pour qu'un jour, nous soyons amenés dans la vérité, dans la paix et dans l'amour. Gloire à notre Sauveur. Nous allons chanter un dernier chant. Nicky va nous dire lequel.
C'est le 47 dans le carnet, Dieu des merveilles.
47.